Bonsoir à tous, à toutes. C'est Christophe et moi qui vous remercions de nous accueillir ici dans votre lycée. Et nous allons. C'est la fête de la science cette semaine. Ça commence aujourd'hui jusqu'à samedi ou dimanche. Donc on a le plaisir de venir vous parler des sciences de la Terre. Ça va être un exposé qui va être assez court, enfin j'espère, et que je vais faire avec deux parties, une partie sur une introduction très générale sur les géosciences, puis une autre partie sur les études qu'on réalise en Grèce. Et en fait, je suis rentré de Grèce il y a quelques jours, j'étais sur le terrain, je vous montrais des photos, et Christophe, lui, est rentré du Chili cette nuit, je pense, très très récemment. Et donc, disons, Christophe travaille sur des gros tremblements de terre, moi sur des plus petits tremblements de terre, mais c'est toujours des tremblements de terre, même les petits peuvent être dangereux. La présentation que je ferai pourra être complétée après par Christophe, où il pourra parler lui-même de son travail sur le Chili, mais pour faire plus court, seulement la partie Grèce va être documentée par des transparents. Alors, avant de présenter les transparents, on va se présenter nous-mêmes, Christophe et moi. Donc nous sommes tous les deux chercheurs au CNRS, au Centre National de la Recherche Scientifique, et tous les deux travaillons à l'École Normale Supérieure, au département des géosciences. Il y a 14 départements à l'École Normale Supérieure, 7 qu'on appelle scientifiques, 7 qu'on appelle littéraires. Selon moi, ça fait 14, tous scientifiques, même les littéraires sont des scientifiques, à mon avis. Et donc, parmi ces départements, vous avez, parmi les littéraires, des départements de philosophie, d'histoire, d'archéologie. Parmi les scientifiques, j'en cite que quelques-uns, parmi les scientifiques, vous avez physique, mathématiques, biologie, géosciences, notamment. Et donc, les départements, l'École Normale Supérieure ont des tailles variables, le nôtre une taille moyenne. Nous sommes une centaine dans le département, dont 35 chercheurs à peu près, des étudiants qui nous rejoignent sur concours et sur dossier, 2 années après le baccalauréat. Et nous sommes un endroit où on fait des études sur les sciences de la Terre, mais aussi sur les sciences de l'atmosphère. Et en ce qui concerne nos enseignements, ils sont à la fois sur les sciences de la Terre, les sciences de l'atmosphère et les sciences des océans. Donc ma spécialité, c'est personnellement, c'est la géophysique de l'intérieur de la Terre. J'ai travaillé beaucoup sur les volcans. Là, vous voyez une photo de l'Etna. C'est un endroit où je vais assez régulièrement. Et je me suis beaucoup intéressé aux déformations du sol, des volcans et des zones sismiques. Je vais laisser la parole à Christophe.
Alors Pierre, vous avez dit déjà beaucoup de choses. Effectivement, je suis aussi chercheur au CNRS et le système de recherche français est vraiment très compliqué. On ne va pas vous expliquer en détail comment ça marche. Mais le Centre National de la Recherche Scientifique emploie plus de 25 000 personnes, dont à peu près la moitié sont des chercheurs, et ils sont affectés dans des laboratoires un peu partout en France. Et à ce titre, on se retrouve à l'École Normale Supérieure dans un laboratoire qui fait de la recherche. Le CNRS n'a presque plus de laboratoires qui sont juste à lui. Il envoie ses chercheurs dans des laboratoires qu'on appelle des unités mixtes avec les universités. La deuxième chose, c'est que nous sommes chercheurs. On a fait de très longues études et on n'a jamais fini vraiment, en fait. Mais dans les métiers de la recherche, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler après la présentation de Pierre, il n'y a pas que des chercheurs, et de très loin, il y a toute une panoplie de métiers, d'emplois, et à tous les niveaux possibles et imaginables, depuis le chercheur jusqu'au technicien, en passant par les ingénieurs, qui font toutes sortes de choses en appui à la recherche. Et le message que je vais vous passer tout de suite, c'est si vous vous intéressez à la recherche et que ça vous effraie de partir dans un bac plus 18, c'est pas grave. Vous pouvez faire de la recherche, vous pouvez participer à l'effort de recherche, vous pouvez être dans un laboratoire de recherche avec un CAP. Il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez vous insérer à n'importe quel niveau et faire des choses passionnantes. En tout cas, c'est ce que moi je crois.
je vais commencer la conférence. Je pense que je vais prendre le micro mobile et circuler là-devant, si tout le monde est d'accord. Des études que nous réalisons avec plusieurs collègues de plusieurs établissements français et d'autres pays aussi, dans la région du golfe de Corrèze en Grèce. Je vais même vous montrer des photos de la campagne qui a eu lieu donc, la semaine dernière et la semaine d'avant. Donc ça c'est l'Etna, je ne vais pas parler de l'Etna aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, j'en parle jeudi prochain au lycée Saint-Louis. Voilà, donc voilà le plan, vous voyez, en deux parties. Là, la première, donc, c'est une introduction sur les géosciences. Alors pourquoi faire des géosciences? Je vais donner trois raisons pour faire des géosciences. La première, c'est dans un but de connaissance, pour connaître la Terre, parce que c'est là où on habite, et aussi parce que il faut essayer de la comprendre, elle nous accueille, nous héberge, elle accueille la vie. Et c'est un petit peu fragile la vie, donc il faut vraisemblablement prendre soin de la planète. En tout cas, pour arriver à en prendre soin correctement, première chose, la connaître. Donc un objectif de connaissance. Donc objectif de connaissance, deuxième objectif, parce que nous y habitons et que nous voulons y habiter longtemps. Donc, vous voyez, je distingue les deux choses, savoir et puis ensuite passer aux choses pratiques, c'est en prendre soin. Et puis la troisième raison que j'ai invoquée pour faire des géosciences, c'est ça avec Christophe, on est très impliqués dans ces questions-là, mais nos collègues météorologues, certains d'entre eux aussi, c'est parce qu'il peut y avoir des phénomènes très violents qui se déroulent sur la planète, des cyclones, des éruptions volcaniques, des tremblements de terre, des glissements de terrain sur des échelles plus petites. Et il y a ces événements qui génèrent des risques pour des populations, parfois très nombreuses. Donc il y a lieu d'essayer de connaître ces événements et d'anticiper ces événements, mettre la population en sécurité pour faire face à ces événements. Il peut y avoir aussi. Plutôt que de déplacer la population, on dit, tiens, un séisme va avoir provoqué telle accélération, donc c'est une bonne idée de construire une maison qui a telle caractéristique. Donc la question, c'est pas nécessairement de connaître les événements pour s'enfuir, ou être connaître les événements pour rester, mais en étant en situation de sécurité. Alors comment fait-on des géosciences? Là encore, je vais donner une vision très générale de comment on fait des géosciences. Et à mon avis, mais je crois que j'ai pas mal de collègues qui pensent ça, si on veut étudier la Terre, soit l'intérieur de la Terre, soit les enveloppes externes, l'atmosphère, l'ionosphère, plus haut, ou les océans, ben il faut regarder, il faut aller voir. Si on ne va pas voir, si on n'observe pas, ça ne va pas marcher. On ne va pas étudier la planète Terre. Simplement en écrivant des équations qu'on croit justes et représentatives du système. Il faut aller regarder. Donc là, par exemple, sur cette photo, c'était en juillet dernier, avec des étudiants de première année de notre département qui sont venus avec moi sur l'Etna pour passer une semaine à cet endroit pour découvrir le volcanisme actif. Donc là, on est monté au sommet du volcan avec l'autorisation de la protection civile ce jour-là. Que le risque permettait d'accéder à cet endroit-là. C'est un endroit où les touristes n'ont pas le droit d'aller, où nous-mêmes n'allons pas toujours. Les scientifiques qui étudient les objets à risque comme ça ne s'exposent pas délibérément au risque, mais le font dans des laps de temps les plus petits possibles. Donc, je dis ça parce qu'il existe dans l'éventail des films qu'on peut voir à la télévision, au cinéma, l'idée parfois que le scientifique géophysicien aimerait aller se mettre en danger, être un aventurier. C'est pas vrai. Ne croyez pas ça. C'est déjà pas mal comme ça, ce qu'on fait sur le terrain, sans qu'on ait besoin de se mettre en danger longtemps. Alors des fois, on va observer moins loin. Ce que vous voyez ici, c'est juste à côté de la vigne. Ça s'appelle le mur aux ammonites. C'est des animaux qui ont été, scotchés dans une gangue sédimentaire qui est très ancienne. Soit ça doit être 70 millions d'années, qu'on peut observer dans un endroit qui se trouve tout à côté de Digne, dans les Alpes de Haute-Provence. Alors là, c'est aussi un endroit que les gens qu'on voit sur la photo, c'est aussi des étudiants, nos étudiants qui vont découvrir ces objets géologiques-là, beaucoup plus anciens, mais non moins intéressants pour comprendre la planète. Alors, comment fait-on des géosciences, je pense. Donc, observer, mais on ne peut pas toujours le faire in situ, sur le terrain. Si on fait de la météorologie, on peut aller avec un avion, peut-être dans des nuages. D'ailleurs, on ne peut pas aller partout, hein, parce que dans les nuages convectifs d'orage, c'est dangereux. Mais même le météorologue ne peut pas aller partout. Si on étudie les océans, on peut essayer d'aller sur les océans. On peut aussi essayer d'aller au fond des océans. Je vais montrer des images après. C'est plus compliqué pour le fond des océans. Et puis, pour l'intérieur de la Terre, là, c'est carrément beaucoup plus compliqué. Donc, Jules Verne, lui, il avait trouvé un accès. Donc ça, c'est un vrai dessin réel, fait par Jules Verne lors de son voyage au centre de la Terre. Mais évidemment, on n'a pas réussi à refaire la même une deuxième fois. Donc, observer, parfois, c'est pas facile parce que, voilà, c'est loin. Si on s'intéresse aux autres planètes, on ne peut pas les observer facilement. Depuis une vingtaine d'années, ou une quinzaine d'années, il y a un engouement pour l'étude des exoplanètes. On veut savoir s'il y a de la vie ailleurs. C'est un enjeu scientifique, c'est aussi même pour beaucoup, certains peut-être, un enjeu spirituel, de savoir s'il y a de la vie ou pas ailleurs. Et donc beaucoup de recherches scientifiques portent aujourd'hui sur les exoplanètes. Mais ça, c'est des objets qui sont parfois à des centaines d'années-lumière de la Terre et qu'on n'observe pas directement. Donc il y a tout un tas d'objets géophysiques qui ne sont pas accessibles facilement aux gens qui habitent sur la Terre. On est allé sur la Lune il y a 35 ans maintenant, mais on n'est pas encore allé sur Mars par exemple. Des fois c'est risqué, ça j'en ai déjà parlé, mais ça c'est une éruption volcanique au Merapi en Indonésie. Voilà un exemple où l'éruption, où le scientifique ou même le quiconque essaye de ne pas se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Les distances en jeu, ça peut être plusieurs kilomètres, parfois plusieurs dizaines de kilomètres. Le troisième cas, et là aussi je l'ai évoqué en fait, non, ça peut être caché. Ce que vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais ce qu'on voit c'est une faille en Grèce, ça s'appelle la faille d'Atalanti, dans le centre de la Grèce. Alors ici, on ne voit pas très bien, mais tout en bas il y a des petits personnages, mais bon, c'est tellement grand la faille qu'on ne les voit pas. C'est une faille qui découpe deux compartiments de la croûte terrestre. Et même dans ce cas-là, je vous montrerai une photo de faille tout à l'heure, beaucoup plus petite, beaucoup plus, ordinaire, ce qu'on arrive à voir sur le terrain. Celle-là, elle est vraiment exceptionnelle. Elle fait peut-être 200 ou 300 mètres de haut. Mais en vérité, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce que cette faille, elle se prolonge à l'intérieur de la croûte terrestre sur une vingtaine de kilomètres. Donc, le 95% ou 97% de cette faille en vérité sont cachés. On ne les voit pas. Et ce qu'on voit, c'est seulement ce qui est à la surface. Et donc, est-ce qu'on va pouvoir extrapoler ce qu'on voit en profondeur? Un seul exemple, la pente de cette faille, là, à la surface, se pente d'environ 50 degrés. Est-ce qu'on a le droit de la prolonger à l'intérieur de la croûte terrestre pareil, ou est-ce que cette pente va être différente? Ça, c'est quelque chose qui est difficile à dire si on n'observe qu'à la surface. Donc, un des problèmes pour l'étude de l'intérieur de la Terre, c'est que les objets sont cachés. Donc, pour arriver à regarder des objets qui sont cachés, il va falloir mettre en œuvre toute une batterie d'instruments de mesure. Donc, je vous ai dit, jusqu'à présent, on observe, on va sur le terrain, on va regarder, et puis ensuite, il va falloir des outils pour aller au-delà de ce que nous montrent nos sens directs. Alors je commence par les océans, parce que je parlais tout à l'heure d'aller sur Mars, on est allé sur la Lune, on n'est pas allé sur Mars, mais alors est-ce qu'on est allé au fond des océans? Est-ce qu'on connaît bien le fond des océans? Ben non, on ne connaît pas bien du tout le fond des océans. Ben, il y a un exemple bête, pas très drôle d'ailleurs, c'est le temps qu'il a fallu à la France pour repêcher l'avion qui est tombé dans l'Atlantique, il y a 3 ans, environ un an, pour arriver à trouver un véhicule qui tombait seulement 3 km sous la surface de la mer. Donc si on connaissait bien les océans, on aurait trouvé cet avion bien avant. Et donc en fait, aujourd'hui, le fond des océans terrestres sont encore très mal connus et beaucoup d'efforts sont consentis par les scientifiques, mais aussi par des industriels, des compagnies pétrolières, par exemple, pour mieux connaître le fond des océans, donc à la fois dans un but de connaissance ou dans un but économique, de prospection. À titre d'exemple, on connaît beaucoup mieux la surface d'une planète comme Vénus, par exemple, qui est, les enveloppes ne sont pas liquides et ont pu être examinées par des capteurs qu'on a envoyés avec des satellites. Mais la surface terrestre, en vérité, est plutôt bien connue dans les continents et plutôt mal connue dans les océans. Alors pour explorer les océans, on a inventé toute une série de véhicules automatiques ou habités. Depuis 10-15 ans, la mode est plutôt véhicule automatique. Ça c'est un peu dommage pour ceux d'entre vous qui aimeraient aller au fond des océans dans un véhicule. Moi j'ai eu cette chance, il y a 25 ans, de pouvoir plonger dans Siana et aller à 3000 mètres de profondeur sur un volcan. Donc cette chance existe encore aujourd'hui, dans certains cas, mais ça s'est un peu raréfié, parce qu'on fait de plus ces choses-là de forme automatisée. Alors une autre méthode, je donne un peu un éventail en vrac, mais dans les questions qu'on peut se poser en géosciences, il y a l'étude des gaz et des aérosols. Vous avez vu, le premier transparent c'était un volcan, il y avait du gaz, un panache, gaz et aérosols qui s'échappaient de ce volcan, et bien, donc près des volcans, on peut avoir envie d'étudier les gaz et les aérosols. Là, les méthodes qu'on va mettre en œuvre, ça peut être des méthodes de collecte d'aérosols, ça c'est le transparent de gauche, ou de collecte de gaz dans des fumerolles, directement à l'implanter des tubes dans des fumerolles et des petites bouteilles dans lesquelles on a fait le vide au préalable, on les ouvre au dernier moment et on capture à ce moment-là, le gaz qui sort du volcan. Ça, c'est pour des applications locales. On peut vouloir étudier les gaz et les aérosols pour des applications beaucoup plus globales. Il y a des chercheurs aujourd'hui qui étudient les aérosols qui circulent autour de la planète et qui sont par exemple prélevés sur le continent africain et qui se redéposent sur l'Europe. Ça, c'est pour des raisons multiples de compréhension des transports de matière à grande échelle et des transferts de masse, mais aussi pour la connaissance de transport dans le domaine de biologique. Alors, un autre ensemble de méthodes qu'on met en œuvre pour étudier l'extérieur et l'intérieur de la Terre, mais disons plutôt l'intérieur de la Terre en l'occurrence, c'est des méthodes de géophysique, qu'on appelle le géophysique de prospection, ou géophysique, de mesure géophysique. Et là, j'ai pris 2 exemples qui sont des exemples que nous pratiquons beaucoup à l'École normale supérieure, dans le labo de géologie. C'est à droite des mesures de géodésie. On va vous en parler beaucoup de la géodésie dans le transparent qui suit. Donc il s'agit de mesurer des coordonnées de points et les changements de coordonnées de points. Et puis l'autre figure, mais finalement je vous montrerai les transparents un peu mieux que ça. Ça, ce qu'on voit, c'est une station sismologique. Donc ça abrite tout un ensemble de capteurs et d'électronique qui permet de mesurer très finement les vibrations du sol. Je vais montrer ces deux figures, ces deux noms, géodésie et sismologie, parce que c'est des outils majeurs pour la compréhension de l'intérieur de la Terre. Donc, sismologie, on va écouter les tremblements de terre petits et grands qui se produisent à l'intérieur de la Terre, géodésie. On va mesurer les coordonnées de points, et on va regarder si les coordonnées de ces points changent et comment elles changent. Alors il y a aussi, et ça depuis maintenant 50 ans, depuis même plus, depuis que les satellites ont commencé à exister à la fin des années 50, eh bien, depuis le début de l'aventure spatiale, beaucoup de satellites ont été construits dans un objectif scientifique, et ces satellites ont permis d'observer l'atmosphère, d'observer les océans, d'observer aussi les continents, d'observer les fleuves. Et donc aujourd'hui, le métier des géophysiciens, en plus d'observer, en plus de mesurer à la surface de la Terre, dans les océans, eh bien, notre métier s'appuie aussi beaucoup, beaucoup sur l'utilisation de données acquises à bord de satellites. Divers types de données acquises à bord de satellites. Et d'ailleurs, les mesures géodésiques de GPS, qu'on va montrer après, c'est aussi basé sur l'utilisation de satellites, satellites de positionnement. Donc les satellites ont vraiment révolutionné notre métier, vous allez voir.
L'image de droite, elle est obtenue où et ça représente quoi d'autre? Parce que ça ressemble à une diffraction.
Alors, je vais commencer par l'image de gauche, très vite, parce que vous avez raison, mais j'explique. L'image de gauche, c'est un lâcher de ballon stratosphérique au-dessus de l'Antarctique par des collègues de l'autre labo qui se trouve dans notre département, à l'ENS. Et l'objectif, c'est que ces ballons, là il y en a un, mais ils en ont lâché 80. Il s'agissait d'aller envoyer des ballons à 17 km d'altitude, ils allaient tourner de nombreuses fois autour de l'Antarctique. Et ça, c'était pour étudier le cycle de l'ozone en Antarctique. À droite, c'est ce qu'on voit en fait, on ne voit pas très bien, mais c'est le Japon. Enfin, on voit le nord, le centre et nord du Japon, c'est Honshu et un petit peu Hokkaido, nord. Et ce qu'on voit, c'est Tokyo est là. Et on voit des franges, on en voit quatre à peu près. C'est un petit peu que des franges, comme si vous jetez un caillou dans l'eau, et vous avez des franges qui vont se former. Ici, ces franges représentent la déformation du sol. Qui résulte du séisme qui a eu lieu à Tohoku le 11 mars 2011. Et donc c'est un séisme considérable de magnitude 9. Il y a eu seulement 3 séismes très 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 gros dans les 20 dernières années. On les a étudiés tous les 3 au Nouveau, en particulier Christophe. Et celui-là, pour celui-là, à l'aide de données satellites et à l'aide de capteurs radar embarqués à bord d'un satellite européen, eh bien, on disposait d'images acquises avant le séisme. Ensuite, on a acquis des images radar après le séisme et par un traitement différentiel de ces images, en combinant l'image avant et l'image après, on a pu mesurer la différence de temps de trajet des ondes électromagnétiques entre le satellite et le sol avec une précision centimétrique. C'est bon, presque incroyable. Moi, j'ai encore du mal à y croire après 20 ans de méthodes comme ça. Des fois, je me dis c'est insensé que l'humanité ait su faire ça. Mais c'est vrai. Et donc, ce qu'on voit, c'est une image de la déformation du sol sur le Japon. C'est 2 mètres, plus de 2 mètres de déformation au niveau de la région de Sendai, ici. Donc ça, c'est l'endroit qui s'est le plus déformé. Mais la faille qui a rompu, elle est ici, dans l'eau. Elle est très grande. Elle doit faire 400 km de long, quelque chose comme ça. Je pense 30 mètres de glissement, peut-être. Ça doit être l'ordre de grandeur. Et elle n'arrive même pas sous la côte japonaise. Mais le glissement est tellement fort, 30 mètres, que ça produit des mouvements tout à fait considérables et même à l'intérieur. Alors, d'ailleurs, ce séisme-là, mais aussi celui de Sumatra, que Christophe a beaucoup étudié, ou le séisme du Chili aussi, que Christophe a beaucoup étudié, sont des séismes qui, non content de faire des déformations considérables à courte distance, disons à quelques centaines de kilomètres, on peut mesurer leur déformation même à plusieurs centaines ou plusieurs milliers de kilomètres de là. Le séisme du Japon produit des déformations qui sont mesurables en Corée, par exemple, en Chine. Mais beaucoup plus petite. C'est plus de 2 mètres ou 2 mètres 50, c'est quelques centimètres. Alors ça, c'était des signaux très grands, mais on peut aussi vouloir capter des signaux très petits. Donc ce que vous voyez là, c'est... ici, il y a un appareil tout petit, là c'est moi. Ça, c'est dans une grotte de lave sur l'Etna. Et donc, l'appareil qu'on voit là, ça s'appelle un inclinomètre. C'est un appareil qui est capable de mesurer des déformations, des inclinaisons du sol, avec une précision de 10 puissance moins 7. Alors, 10 moins 7, ça veut dire que si vous inclinez une barre qui fait 1 km de long, donc 1 km, 1 mètre, 1 mm, donc l'incliné de 0 à 1 mm, vous allez le mesurer. Donc voilà, des appareils comme ça qui s'appellent inclinomètres, ça existe. Il y a de nombreuses technologies, 10-7, donc 0,1 mm au kilomètre. En fait, c'est assez facile. On arrive à faire des inclinomètres aujourd'hui qui font 10-8, 10-9. Et quand on atteint des capacités aussi grandes de mesure des inclinaisons du sol, on voit plein de phénomènes qui affectent la Terre. Si on voit le camp gonfle, on va le voir. Ça, à la limite, c'est pas très dur. Mais on voit d'autres choses. Par exemple, on voit ce qu'on appelle les marées terrestres. C'est-à-dire que la Terre, non seulement vous avez les marées océaniques, les marées que vous connaissez, mais du fait du mouvement des astres, vous avez la Terre elle-même, solide, qui se déforme tous les jours. Et de combien ? Ben d'environ 50 cm, l'ordre de grandeur, de la déformation de la Terre. Donc, quand vous placez un instrument à un endroit donné, et s'il est suffisamment précis, vous allez pouvoir détecter ce qu'on appelle les marées terrestres. Et ces appareils-là, les inclinomètres, ils avaient été conçus à l'origine, dans les années 1950, pour mesurer, pour la première fois, les marées terrestres. Parce que c'est des phénomènes donc, qui sont avec des périodes longues, et avec les sismomètres, on n'arrivait pas à les mesurer. Il fallait inventer des instruments qui allaient regarder des changements sur des périodes plus longues. Donc ça a été les inclinomètres. Puis après, on les a utilisés pour beaucoup d'autres applications. Donc vous voyez, des fois, c'est des signaux tout petits qu'on veut chercher. Et ces signaux tout petits, soit on veut les chercher parce qu'ils vont nous apprendre des choses voilà, sur les marées terrestres, mais ça peut aussi être des signaux tout petits qu'on veut chercher parce qu'on croit que des grands séismes peuvent peut-être être précédés par des tout petits séismes. Et donc il faut chercher dans les petits pour voir s'il y a des anomalies et pour éventuellement disons, constater des changements qui annonceraient l'occurrence ultérieure d'un grand séisme. Alors, ça ne suffit pas d'aller sur le terrain, ça ne suffit pas d'aller sur des satellites et tout ça. Il faut aussi, on peut aussi faire des choses formidables au laboratoire. Ce que vous voyez là, c'est deux appareils qui sont dans notre laboratoire et qui sont capables de reproduire sur des échantillons minuscules de quelques centimètres des pressions et des températures très élevées. Donc ça s'appelle des presses. Là, il y en a deux. L'une d'entre elles, celle-ci, je crois, est capable de simuler les pressions qui sont à 10-15 km à l'intérieur de la croûte terrestre. Et puis il existe dans d'autres laboratoires des presses qui sont capables d'aller simuler des profondeurs encore plus grandes. Et on envisage d'ailleurs de se doter d'instruments capables d'aller simuler des phénomènes plus profonds. Donc on arrive à reproduire en laboratoire sur des tout petits échantillons de roches, ou des échantillons de roches même synthétiques, les phénomènes, les conditions de température et pression qui existent à l'intérieur de la Terre, jusqu'à certaines profondeurs. Ça, je le mentionne, on pourra y revenir si vous voulez, si ça vous intéresse dans la discussion. C'était simplement transparent pour dire que non seulement le métier des géosciences est très diversifié, comme Christophe l'a dit, l'éventail des compétences nécessaires en géosciences est très vaste, donc c'est pas la peine d'avoir fait bac plus 18 ou bac plus 8, c'est très variable, enfin ça peut être intéressant aussi. Là. Mais c'est aussi un domaine où il y a beaucoup d'emplois à l'heure actuelle. Il y a des emplois parce que les sciences de l'environnement, au sens large, aspirent des emplois nouveaux, parce que il y a beaucoup d'emplois dans le domaine des ressources naturelles, le pétrole, l'eau, peut-être de même le gaz de schiste dans les pays qui décideront de le prospecter. Puis une fois qu'on l'aura prospecté et acquis, il faudra des experts qui sont capables de dépolluer ce qu'on aura pollué. Mais en tout cas, il faut comprendre que le domaine des géosciences est un domaine qui est très dynamique et je pense que ça ne va pas s'arrêter dans les prochaines années. Donc si c'est un domaine qui vous intéresse, sachez que non seulement je crois que c'est pas mal, mais il y a des emplois dans ce domaine-là. Voilà, j'ai fini pour la première partie. Maintenant, je voudrais aborder la deuxième. Donc, c'est montrer l'exemple des études que nous faisons dans le golfe de Corrèze. Si vous avez des questions tout de suite, immédiatement, vous pouvez le poser maintenant, sinon on le fera après, c'est comme vous voulez. En fait, vous pouvez à tout moment m'interrompre. Est-ce qu'il y a des questions maintenant ou est-ce que j'enchaîne? Okay, donc j'enchaîne avec le rift de Corrèze. Alors rift, golfe. Donc ce qu'on voit ici, je vais montrer sous forme d'une carte après, c'est le golfe de Corrèze. Par ici, il y a la ville d'Athènes, par ici, il y a la ville de Patras, tout au fond, là-bas, il y a l'Italie. Donc là, c'est l'entrée de l'Adriatique. On va mieux voir ça sous forme de la carte après. Et donc, je vais vous expliquer dans les prochains transparents pourquoi on a décidé d'étudier cette région-là. Alors ce que vous voyez là, alors les couleurs, c'est peut-être pas génial, mais c'est une carte de la sismicité autour de la Méditerranée, enregistrée au cours des 15 dernières années à peu près. Donc c'est des renseignements qu'on trouve sur Internet facilement. Par exemple, ça a été pris dans le site Internet du centre, qu'on appelle Centre sismologique euro-méditerranéen, qui collecte et rassemble l'ensemble des informations sur l'activité sismique de la Méditerranée. Ce transparent, il est pour vous montrer que, déjà au premier ordre, ce qu'on voit dans une région comme celle-ci, c'est que il n'y a pas des séismes partout. Par exemple, ici, dans la région parisienne, il n'y a, on va essayer de dire, pas de sismicité. On ne s'attend pas à avoir un gros séisme à Paris. Mais si on s'éloigne de quelques centaines de kilomètres vers l'est et qu'on va vers Strasbourg, ou vers Bâle, ou vers Luxembourg, là déjà, on peut avoir des séismes. Et donc, le centre sismique euro-méditerranéen, sur 10 ans, il enregistre ici des séismes. C'est des petits séismes. Il peut y en avoir peut-être un jour des gros, mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est des petits. Il y a aussi des séismes en Bretagne, des petits séismes. Mais si on veut des séismes plus gros, si on veut s'intéresser à des zones où il y a un risque sismique beaucoup plus important, il faut sortir de France et s'éloigner vers le sud-est. Et là, on a beaucoup plus de sismicité en Italie. On a de la sismicité sur la marge nord-africaine, là, en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Et puis, ici, autour de la Grèce, on a une énorme patate de tremblement de terre. On ne voit même plus rien du tout, on voit que les séismes là. Et puis, aussi, les couleurs ne sont pas superbes, mais en fait, ici, il y a une gamme de couleurs qui représente la profondeur des séismes. Et à la différence de la zone de l'Europe centrale, enfin de la plupart des zones d'Europe centrale, ici, on constate qu'il y a des séismes nettement plus profonds, jusqu'à 300-350 km de profondeur. Et ça, c'est parce qu'on va, en fait, on est dans une zone où non seulement on a des séismes près de la surface, il y a des raisons qu'on va discuter plus en détail après, mais on a une zone où, en fait, deux continents se rapprochent, en l'occurrence l'Afrique, se rapproche de l'Europe, pas très vite, mais suffisamment vite, pour qu'il y ait une collision globalement, et que dans cette région-ci, cette région de la Grèce, il y ait la plaque tectonique africaine qui plonge doucement sous la plaque européenne. Ça s'appelle une subduction. Celle-ci n'est pas très rapide, celle du Chili est beaucoup plus rapide, mais donc ça génère des séismes profonds. Après, si on continue vers l'est, eh bien, il y a d'autres séismes importants ici, en Turquie, et puis d'autres régions sismiques très, très importantes plus à l'est, mais je ne vais pas les commenter ici. Alors, j'enlève les séismes, maintenant ce que je montre c'est une carte telle que la représentent des géologues, ou des gens, des tectoniciens, des gens qui s'intéressent à la tectonique des plaques, et qui, à la fois sur la base des données de séisme, sur la base d'autres observations, ont découpé la Terre en plusieurs blocs, et ont calculé les vitesses de mouvement dans ce bloc. Et donc, ce qu'on connaît pour le pourtour méditerranéen, c'est que donc, la plaque africaine se rapproche de la plaque eurasiatique, environ 1 cm par an. À peu près, les mesures, il faut continuer de faire des mesures pour affiner ça. Mais ici, vous avez une plaque qui s'appelle la plaque Arabie, qui est plus petite que la plaque africaine, mais qui va beaucoup plus vite, elle, vers le nord. Donc environ 2 cm par an, enfin, par rapport à la plaque africaine. Et elle, donc, elle vient, vous voyez, elle entre en collision ici avec ce qui est plus au nord, et elle pousse vers l'ouest une plaque encore plus petite, qui est la plaque anatolienne. Alors du coup, cette plaque anatolienne qui est poussée vers l'est, elle fait comme ça, puis après ici vous avez la Grèce, et la Grèce, elle, en fait, elle est poussée par la plaque anatolienne, et elle avance, en fait, à rebours vers l'Afrique. Alors du coup, au lieu d'avoir 1 cm de mouvement relatif ici entre l'Europe et l'Afrique, on a un mouvement qui est amplifié ici dans la région de la Grèce, parce que la plaque arabique pousse, la petite plaque turquie, elle pivote et fait avancer la Grèce vers le sud. Donc comme ça, le jeu des grandes plaques et des plus petites plaques et des encore plus petites plaques fait que, avec un mouvement qui n'est pas forcément très grand globalement, vous pouvez avoir des endroits, des amplifications du mouvement. Donc c'est ce qui se passe en Grèce, et c'est ce qui fait qu'il y a des endroits de Grèce où il va y avoir de l'activité sismique importante, pas en profondeur, hein, mais près de la surface, parce que ça va plus vite. Alors ça, j'anticipe sur des figures que je montrerai après, mais je la montre maintenant pour vous faire comprendre. C'est une carte des vecteurs de vitesse de cette plaque de la Turquie et de la Grèce. Donc là, vous voyez, le vecteur ici, c'est 2 cm par an, là, la vitesse. Et donc on a tout ça qui pivote. On voit bien le mouvement de rotation de l'ensemble sous l'effet de la poussée de la plaque arabique, qui pivote et qui revient vers le sud, en s'agissant des points qui sont ici. Alors à quelle vitesse? Bien, vous voyez, les vecteurs qui sont 3,5 cm par an vers le sud, vers le sud-est, sud-sud-ouest, pardon, quand on est en Grèce. Donc là, maintenant, on va zoomer dans cette région-là, parce que dans cette région-là, qui est la région du golfe de Corinthe, il se passe des choses un peu surprenantes. C'est que les vecteurs, donc les vitesses des points, eh bien, elles ont un saut abrupt quand on franchit le golfe de Corinthe. Alors ici, c'est représenté comme les figures précédentes par rapport à l'Europe, mais on voit mal parce que les vecteurs sont grands. Donc j'ai changé de repère, je fais un changement de repère, et là je mets le zéro ici. Donc c'est ce coup-ci, quand, pour un observateur qui serait dans le Péloponnèse, à ce moment-là, on a l'impression de voir l'autre côté, le nord, ce qui s'en va. Et qui s'en va à plus de 1 cm par an. Donc on est dans une région qui s'ouvre très vite, de l'ordre de 1 cm par an. Donc ça, on le sait depuis un certain temps, et on le sait mieux depuis qu'on a fait des mesures géodésiques. Mais finalement, on l'avait subodoré avant, parce que c'est une région qui avait plein de séismes de magnitude importante dans tous les siècles passés. Ça, c'est une carte des séismes dans le golfe de Corinthe, seulement au cours des deux derniers siècles, du 19e et du 20e siècle. Et il y en a vraiment beaucoup. Ça, c'est seulement les séismes qui ont une magnitude supérieure à 6. 6, c'est des séismes sérieux qui peuvent détruire des villes et provoquer des centaines de victimes. On est dans des gammes de séismes qui sont ravageurs, surtout quand ils sont très superficiels et qui se produisent sous une ville. Et bien voilà, dans la région du golfe de Corinthe, pratiquement, il y a un séisme de magnitude 6 tous les 10 ans. Ça, on le savait, enfin, au moment qu'on le sait, puisque ça, depuis l'Antiquité, on sait qu'il y a beaucoup de séismes ici, et on comprend mieux pourquoi, puisqu'on a fait des mesures géodésiques, et sur lesquelles je vais revenir après. Alors, les séismes provoquent des destructions, ça, c'est un petit séisme, je dis un petit, c'est un séisme de magnitude à peu près 6 aussi, qui s'est produit en 2008, mais qui, par chance, a été celui-là un petit peu profond, la faille n'est pas arrivée très près de la surface, et donc il n'a pas produit trop de dégâts. Alors c'est une région, la région du golfe de Corinthe, qui est très peuplée, il y a plus de 1,5 million d'habitants qui vivent autour du golfe de Corinthe. Là, il y a une grande ville, Patras, qui est la troisième ville du pays, avec 800 000 habitants. Là, vous avez un énorme pont qui fait 3,5 km de long. Qui a été dimensionné pour un séisme de magnitude 7, pas 8. Et donc, évidemment, il y a tout un... vous avez des villes qui sont construites juste au bord du golfe, des villages, qui peuvent être ravagés par des tsunamis, eux-mêmes provoqués par des séismes. Donc c'est une région où, je vous l'ai dit avant, il y a plein de séismes, et il y a une forte vulnérabilité. On utilise le mot vulnérabilité pour quand il y a beaucoup de gens qui habitent dans la région et qu'ils ils habitent à des endroits exposés. C'est le cas dans cet endroit. Alors, les failles, les séismes, ça se produit sur des failles. Donc ces failles, je vous en ai montré une tout à l'heure, une très grande, en introduction, là je vais vous montrer celle du golfe de Corinthe. Pour regarder les failles, il faut avoir, à mon avis, une approche dans laquelle on essaie de zoomer et dézoomer sur les failles. Donc on va, par exemple, dire, tiens, je vais essayer de les voir à partir d'imagerie satellite, ou à partir de photos aériennes, ça c'est à partir d'une vue aérienne, enfin, j'ai fait la photo d'avion, et ici, on est, ça c'est la côte sud du golfe de Corinthe. Là, il y a des deltas, c'est des rivières qui forment des deltas. Et là, il y a un relief qui est un relief créé par les failles. Alors, comme vu d'avion, on ne voit pas très bien, on voit juste la ligne qui sépare le relief et les deltas. Pour voir les failles, il faut se mettre dans l'eau ici, et puis regarder depuis la mer, depuis la côte en face, les failles. Alors, si on fait ça, je me mets en face. Là, qu'est-ce que je vois? Je vois un relief important. Environ 1000 mètres de dénivelé ici, même 1500 quand je vais plus au-delà. Mais les géologues qui ont collecté ici des roches ont fait le constat que ça, c'est des roches qui proviennent en fait du golfe de Corinthe et qui sont montées extrêmement vite. En fait, elles ont moins de 1 million d'années, donc elles ont parcouru un kilomètre de dénivelé vers le haut en moins de 1 million d'années, 1 millimètre par an de mouvement vertical, qui est une vitesse pour les géologues importante. Et puis, quand on va plus bas, plus près de la côte, il y a une zone sur laquelle je vais zoomer après plusieurs fois, c'est la faille. Alors, ça, c'est un escarpement de faille normale, et disons, on apprend à reconnaître les failles normales dans la morphologie, parce que ça a un certain nombre de signatures dans les rivières, les petites, les ruisseaux qui dégringolent sur les failles normales. Certaines caractéristiques qu'on ne retrouve pas dans des endroits où, qui ne sont pas des failles. Alors, si je m'approche de la faille, eh bien, je la retrouve de plus près avec ici l'escarpement de la faille. Puis si je m'approche encore plus, eh bien, là je trouve vraiment le plan de la faille, un peu comme la faille d'Atalanti tout à l'heure, mais il n'y a pas 300 mètres, il y a seulement 20 ou 30 mètres, mais on peut toucher la faille, on peut mettre sa main sur la faille, et à certains endroits, on peut même voir la signature entre guillemets du dernier séisme. Ici, c'est un séisme qui a eu lieu en 1861. Et on arrive à certains endroits à encore voir la zone qui a glissé à ce moment-là. Cette faille-là, parfois, lors des séismes, elle glisse jusqu'à la surface. Alors, les géologues, eh bien, ils observent ces failles, ils observent d'autres failles, et puis ils font des coupes. Comme celle-ci, du golfe de Corinthe, en disant, bon, ben, ça marche comme ça, il y a des failles au sud, ici, il y a des failles au nord, de l'autre côté, il y en a même assez loin en terre, et donc l'extension du golfe, elle va se faire sur cet ensemble de failles. Et nous, disons, géophysiciens, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aller plus dans le détail, de dire quelle faille marche, quelle faille ne marche pas, quelle faille risque de marcher dans les 10 prochaines années. Et donc, à partir d'une carte de faille qu'on peut constituer à partir d'observations géologiques sur le terrain, eh bien, on va essayer de caractériser chaque faille. Et puis, je vous ai parlé du bandage des failles tout à l'heure. Vous voyez que là, le géologue, il a tracé, il a vu que la faille à la surface elle avait un angle de 50 degrés. Il a dit, allez, je traverse jusqu'à 10 km de profondeur avec 50 degrés, je ne change pas l'angle. Mais est-ce que ça, c'est vrai? Ou est-ce que c'est possible que les failles tournent, pareil, comme ça, changent de, disons, soit une forme qui tourne? C'est des questions qu'on veut savoir, parce que c'est des questions qui sont assez importantes, en fait, pour décrire le processus, pour bien comprendre comment ça marche et comment ça peut rompre la prochaine fois. Alors, pour savoir comment ce que fait la faille, est-ce que son angle est toujours le même? Et pour la croiser un peu en profondeur, ce qu'on peut faire, c'est des forages. Donc ça, dans le golfe de Corinthe, on a fait des forages, enfin on a fait un forage jusqu'à 1 km de profondeur. Donc ce forage, on l'a fait juste au niveau de la côte sud. On s'est mis un peu dans un delta. On a foré à 1 km de profondeur. Forer 1 km de profondeur, ça, déjà, ça coûte beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait plusieurs forages. Mais à un endroit, effectivement, vers 1000 mètres, la faille a été coupée et on a pu constater l'existence d'une zone très altérée avec des argiles. Et puis ensuite, on est passé dans le compartiment en dessous, sous la faille, qui est sur des calcaires beaucoup plus anciens. Alors on ne peut pas toujours forer. Donc, les méthodes qu'on met en œuvre à Corrèze, c'est les deux méthodes dont j'ai parlé tout à l'heure. Enfin, les deux, on en met plein en œuvre, mais je vais illustrer deux. C'est l'étude de l'activité sismique et l'étude des déformations. Alors, l'étude de l'activité sismique, ça se fait à partir de stations sismologiques déployées autour du Golfe. Ici, ce que je vous montre, c'est l'activité entre le 25 septembre et aujourd'hui. Donc, j'ai pris ça sur un site web qui est celui-là, que vous pouvez visiter, sur lequel vous avez l'activité sismique en temps réel dans le golfe de Corinthe. Et vous voyez que c'est depuis deux semaines, là, il y a pas mal de séismes dans cette région-là. Mais ce n'est pas toujours à cet endroit qu'ont lieu les séismes. Ça, c'est une carte de la sismicité sur deux semaines, mais sur sept ans, entre 2000 et 2007, j'ai pris cet exemple. Et là, il y a des nuages de séismes un peu partout dans cette région-là. Et ça, c'est ici, en vertical, c'est le temps. Et ça, c'est une coupe sud-nord, donc une coupe par là. Et Guillaume, c'est ici, et le Trisonien, c'est là. Et donc, ce que je veux montrer dans cette figure-là, c'est que les tremblements de terre, eh bien, ils se produisent, il n'y en a pas toujours le même nombre en fonction des périodes. Il y a des moments où il y en a plus, ça crépite plus ici, ça crépite plus un an plus tard là, après ça crépite ici, et là ça crépite beaucoup depuis quelques mois dans cette région-là. Et puis ça crépite pas toujours au même endroit. Donc l'activité sismique dans une région qui se déforme beaucoup, comme le golfe de Corinthe, ça se déplace dans l'espace, en fonction du temps, et aussi c'est pas toujours la même quantité de séisme au fil du temps. Et par exemple, dans la période récente actuelle, là depuis quelques mois, vous voyez qu'il y a plein de séismes par ici, et donc on appelle ça une crise sismique, on est en train d'avoir dans une des régions du golfe de Corinthe, une crise sismique. Parfois, le plus souvent, les crises sismiques ne sont pas suivies d'un grand séisme. Plutôt le contraire, vous avez un séisme important, et puis beaucoup de répliques qui diminuent avec le temps. Mais parfois, une crise sismique est suivie d'un grand séisme. Ça a été le cas en Italie en 2009 à L'Aquila. Donc l'étude des crises sismiques et la compréhension de est-ce qu'une crise sismique va être suivie d'un séisme ou pas, c'est quelque chose qu'on croit important. En tout cas, quand il y a une crise sismique, pour nous, ce n'est pas un phénomène mineur, pas banal. Déjà, en soi, ça mérite d'être étudié et ça peut être annonciateur, peut-être, d'un séisme. Alors, une autre chose importante qu'on a découvert en étudiant cette sismicité, c'est que l'angle dont je vous parlais, ben voilà, ici vous avez une représentation de l'angle de la sismicité sous le golfe de Corinthe, et vous voyez que là, on n'est plus du tout avec 50 degrés. On est plutôt avec 30-35 degrés. Donc ça, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est bien ce qu'on observe. Enfin, c'est ce qu'on avait. On avait pensé que peut-être ça pourrait fonctionner comme ça. Les failles qu'on observe à la surface, on ne peut pas les prolonger indéfiniment vers le bas avec la même pente. Il faut les faire tourner comme ça. Et donc cette zone qui s'étire vite, eh bien, elle possède des failles qui elles-mêmes ne sont pas des plans, mais sont des surfaces courbées. Ça, finalement, c'est la sismicité qui nous aide beaucoup à le savoir. Alors ici, ça, c'est des figures un peu pour vous donner envie de venir voir. C'est l'installation d'une station sismologique. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir faire pour installer une station sismologique ? Savoir conduire une pelleteuse, enfin là on a fait beaucoup de choses. Donc on a, pour faire des tranchées, pour pouvoir creuser un petit peu, pour mettre les sismomètres un petit peu à l'intérieur de la terre, à l'abri des intempéries et du vent. Il faut quand même pas que l'instrument vibre parce qu'il y a du vent. Donc on creuse un petit peu, quelques mètres, et puis après on commence à construire ici une petite cabane, un petit abri. Dans le petit abri on va mettre de l'électronique. L'électronique ça va être des batteries, des panneaux solaires, enfin, produire de l'électricité. Ça va être des systèmes pour télétransmettre les informations. On utilise de plus en plus de la téléphonie portable, comme, presque comme sur vos téléphones portables. Et puis, le cœur du dispositif, c'est la station sismologique et le sismomètre. Donc c'est l'instrument qui va mesurer les vibrations qu'on a mis dans le sol et l'instrument qui va enregistrer dans sa mémoire ces vibrations et les transmettre. Et puis voilà, ça c'est une station sismologique terminée. Depuis quelques mois dans le golfe de Corinthe. Alors maintenant, la deuxième sous-partie, là, c'est la mesure, cette fois-ci, des déformations du sol. Et donc, je vais parler de GPS et de ce qu'on fait dans le golfe de Corinthe. Et donc, on a fait deux choses. On a mis des stations permanentes pour mesurer les déformations en continu. Et puis, on a mis plus de stations qui vont être mesurées, mais de façon épisodique. Donc d'abord, les stations permanentes. Ici, sur la carte, on voit l'endroit où elle se trouve. Et ça, c'est une photo d'une station permanente. Et puis ça, c'est le résultat des calculs, des coordonnées de la station permanente. Puis je vais montrer pour d'autres stations permanentes. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit deux choses essentielles, ou trois. On voit d'abord que donc on a des séries temporelles qui permettent d'établir des vecteurs vitesse pour les différentes stations, et donc si on compare les stations qui sont situées au sud avec les stations qui sont situées au nord, on mesure bien le saut de vitesse dû à l'ouverture dans le rift de Corinthe. Mais la chose importante, vraiment importante, c'est que des fois il y a des petits sauts. Par exemple ici, vous avez cette station qui est par là, où il y a un petit saut là, ça c'est parce qu'il y a un petit séisme qui s'est produit dans la région, magnitude de 5,3. Donc les stations permanentes, elles vont nous permettre de compléter les informations des stations sismologiques avec des informations de déformation du sol. Et comme la station est permanente, on est sûr qu'on ne va pas rater le séisme dès lors qu'il est assez gros pour donner une mesure de déformation. Donc, par exemple ici, cette station qui est là, elle enregistre un petit saut d'environ 2 cm. Le sol a bougé de 2 cm au moment du tremblement de terre. Donc cet ensemble de stations permanentes nous permet d'enregistrer les mouvements des tremblements de terre. Et l'autre chose qu'on fait, et là c'est assez massif, c'est beaucoup de points qu'on va mesurer de temps en temps lors de campagne. Donc c'est pas sous forme permanente, on va aller mesurer des piliers géodésiques, et puis la mesure d'un grand nombre de piliers géodésiques va nous donner une carte de la déformation du sol, et si on en mesure vraiment beaucoup, on va pouvoir affiner ce que je vous ai montré avant, pour cette région-là. Donc, par exemple, ici, ce qu'on arrive bien à affiner, c'est qu'on voit très très bien le saut entre le sud et le nord, mais on voit même plus que ça maintenant, avec toutes ces mesures, on voit que plus on va vers l'ouest, plus ça s'ouvre vite. Donc finalement, ici, ça s'ouvre presque pas, on est vers Corinthe, et là, ça s'ouvre très vite. En fait, les deux blocs, ici, voilà, ici et là, il s'ouvre un peu comme ça, un éventail. Donc l'extrémité ouest s'ouvre beaucoup plus vite que le côté est. Et puis on voit d'autres zones qui se déforment. Donc on arrive à avoir un très grand détail sur la déformation. Et ce grand détail, on en a besoin pour pouvoir examiner les failles une à une. Tout à l'heure, je vous ai montré une carte des failles. Il y a beaucoup de failles. Et les failles, si on veut, soit on veut pas les comprendre une à une, on veut comprendre globalement, soit à un moment donné on se dit je veux comprendre chaque faille, et là il faut un dispositif d'observation qui va avoir suffisamment de points pour regarder chaque faille. Donc c'est ce qu'on fait dans cette région-là. Alors ça c'est ces deux transparents, pour finir, c'est des transparents, des photos prises la semaine dernière. Donc là, on faisait des mesures. Donc il y avait des étudiants de l'université d'Athènes qui étaient venus quelques jours pour participer aux mesures. Je vous signale, parce que vous avez le droit d'être candidat pour participer à des campagnes géodésiques. Il ne faut pas venir en trop grand nombre. Et donc ici, c'est un des points où on fait des mesures géodésiques. Il faut être un peu précis quand même. Il faut centrer les choses au millimètre près. Il faut faire des mesures ici. On fait pas, c'est pas la colline de vacances, quoi. Il faut faire, il faut arriver à retrouver, à aller jusque sur les points, mais parfois il y a pas mal de marches, il faut pas se perdre, etc. Et puis on travaille aussi la nuit. On ne voit pas très bien, mais des fois, on n'arrive pas à finir tout pendant la journée. On installe même des coins la nuit, et puis le soir, il faut bien ranger le matériel pour le jour d'après. Donc c'est des journées chargées. Le métier de géophysicien sur le terrain, c'est souvent des journées courtes, mais exaltantes. Et puis, des fois, après, quand on a bien très fini, on va au resto le soir, petit resto grec. Voilà, ça fait bien. Voilà, donc merci. Et puis, si vous voulez en savoir plus, il y a un site web. Voilà. Si vous avez des questions.
Entre un cyclone et un tsunami.
Ah oui, c'est pas du tout la même chose. Donc le tsunami, c'est une vague qui est produite suite à un tremblement de terre qui déforme le plancher océanique. C'est comme si dans votre baignoire, vous mettez un objet au fond de la baignoire, vous pouvez déclencher un tsunami très intéressant dans les baignoires. Et le cyclone, ça c'est un phénomène qui est atmosphérique et qui se produit dans les zones où l'océan est suffisamment chaud pour que la température excède 27 degrés de l'eau. Et donc là, vous pouvez commencer à avoir des échanges d'énergie significatifs entre l'eau et l'atmosphère, et en fait à fournir de l'énergie à l'atmosphère et à générer des tourbillons très importants dans l'atmosphère. Donc ça crée un cyclone qui va se déplacer et qui va pouvoir qui va affecter des îles, mais qui peut affecter des continents. Et c'est là où votre question elle est intéressante, parce que si vous considérez ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans, je crois en 2010 par là, finalement au moment de l'arrivée du cyclone, donc qui a pris de la force sur l'Atlantique, ensuite sur le golfe du Mexique, le cyclone arrive à terre et il génère des variations tout à fait considérables du niveau de la mer sur la Terre et des inondations. Et donc, attention, ce sont deux choses totalement différentes. Mais finalement, il y a des liens entre les cyclones et l'occurrence de phénomènes marégraphiques de grande ampleur.
Dans la filière, on étudie la résistance des matériaux avec les poutres. Dans quelle manière vous pouvez essayer peut-être le modèle pour générer un matériau plus continu et pas binaire, enfin, on veut savoir de quelle manière ça se modélise.
Alors les géophysiciens, ils ont beaucoup joué avec les modèles de poutres. Je pense qu'il y en a qui jouent encore un peu à ça. Par exemple, pour regarder, vous mettez une faille, donc vous prenez, vous dites voilà, j'ai une croûte. Élastique homogène, c'est faux, hein. Allez, on va dire. Je la coupe et je laisse chaque compartiment se relâcher. Et là, on fait le constat qu'au premier ordre, des fois, les équations des poutres, ça marche. Donc, c'est-à-dire la déformée qu'on peut observer, par exemple, après un séisme. Ça correspond à ce qu'on observerait sur une poutre qu'on trancherait après l'avoir mise sous contrainte. Alors dit d'une autre manière, ça veut dire que quand on fait des mesures géodésiques avant et après un séisme, et si un séisme se produit, on a remarqué que un modèle aussi simple, qu'un modèle homogène élastique, dans lequel on a fait une discontinuité, ce modèle, il produit des bons résultats. C'est très étonnant. Ça aussi, ça m'a toujours étonné, mais c'est vrai, voilà, ça marche. Au premier ordre. Donc, c'est plus, si vous voulez, là, je suis allé au-delà de la poutre, parce que on n'est pas dans un. C'est plus compliqué, quoi. Mais, finalement, la modélisation élastique homogène de la croûte, ça permet de résoudre certaines questions qu'on peut se poser. Donc des questions de mouvement instantané lié à un séisme, la sismologie aussi, les tremblements de terre, ça se décrit bien avec de l'élasticité. aussi, par exemple, les surcharges instantanées. C'est-à-dire, vous prenez une coulée de lave, un demi-kilomètre cube de lave qui se pose là, en un an, donc en disant très très vite. Et ben, si vous mesurez la déformation du sol, pas sur la lave, mais à quelques kilomètres, vous constatez que le sol il est descendu parce que la lave l'appuie. Et donc les équations de l'élasticité, elles donnent satisfaction pour toute une gamme de problèmes, mais elles ne donnent pas satisfaction quand on veut regarder des choses qui durent longtemps. Parce que là, ça ne marche plus. La Terre, disons, jusqu'à assez proche de nous, elle a une certaine viscosité. Et donc, si on fait quelque chose, si on appuie, ça va, les contraintes vont se migrer du fait de la viscosité. Cette viscosité, on peut la détecter, par exemple, avec les mouvements post-glaciaires, qui sont très faciles à observer, même encore aujourd'hui, au nord de l'Europe. Vous allez en Suède, en Finlande, vous avez des rivages qui sont bien hors de l'eau, de plusieurs mètres. Ça, c'est parce qu'en fait, il y a 10 000 ans, la glace a fondu. C'était la fin de l'ère glaciaire, la dernière. Et donc, vous avez un mouvement post-glaciaire qui s'est produit, qui a été très rapide pendant les premiers milliers d'années, mais qui n'est pas fini. Ça continue de monter dans ces endroits-là, au Canada. Et donc, quand on regarde des échelles de temps de plusieurs milliers d'années, la viscosité, c'est important. Mais même quand on regarde des échelles de temps de quelques années, quelques dizaines d'années, la viscosité, c'est important. Pour nous, Christophe et moi qui étudions les séismes, et parfois des séismes qui sont susceptibles de se reproduire tous les 100 ans, 200 ans, se reproduire à peu près, eh bien, on ne peut pas négliger la viscosité.
La dérive qui est constante. Vous avez montré tout de suite que les plaques, par exemple en Afrique et en Europe, se rejoignent un peu. Est-ce que cette dérive, par exemple, l'impact d'un météorite goulé peut faire intervertir cette dérive, de sorte que, au niveau d'un météorite qui fait un choc au niveau de la Terre, la dérive s'inverse, plutôt les plaques sur la Terre.
À mon avis, tu fais référence à un film. Par exemple, il y a des films ou des romans qui, et on en voit de plus en plus d'ailleurs, c'est très intéressant ça, qui parlent de catastrophes naturelles, dans lesquelles le chercheur est présenté comme le héros parce que lui comprend ce qui se passe et puis il a des solutions. Genre faire péter une bombe atomique et ça va régler le problème. Et en général, ces films sont très intéressants à regarder parce qu'il y a toujours un fond de vrai, ils sont basés sur tout un tas de choses qui se produisent vraiment. Le premier jour après, la grande glaciation, les trucs effectivement de séisme, la prédiction en 2012 avec les Incas, la déstabilisation du noyau, tout ça. Il y a des fonds de choses qui sont des phénomènes qui se produisent vraiment, puis après il y a des constructions. Et ça ne marche pas vraiment comme ça. Donc, la tectonique des plaques, c'est un truc qui fonctionne à quelques centimètres par an. Ça veut dire des milliers de kilomètres en millions d'années. C'est extrêmement long, en fait. Et c'est extrêmement long. Ça dure depuis des milliards d'années. Et sans beaucoup changer. Alors, on a des tas de mesures actuelles pour regarder comment les plaques bougent, à quelle vitesse elles bougent aujourd'hui. On a des mesures un peu indirectes pour regarder à quelle vitesse elles se déplaçaient il y a 10 millions d'années, il y a 50 millions d'années, 100 millions d'années. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que pour l'immense majorité des plaques, c'est la même vitesse. Elles bougent à quelques centimètres par an aujourd'hui, avec une vitesse qui fait les milliers de kilomètres qu'elles ont fait en millions d'années, il y a 100 millions d'années. La raison, c'est que c'est juste des trucs énormes, quoi. Hein, ça fait des dizaines, presque 100 km d'épaisseur, ça fait des milliers de kilomètres de large, donc ça a une inertie qui est absolument énorme, et les matières qui sont autour de ça, qui se déforment, sont molles si on veut, mais il faut beaucoup d'énergie et beaucoup de force pour les déformer, donc ça ne change pas de mouvement facilement. Donc une météorite qui tombe sur la Terre, ça a des conséquences très importantes, mais ça ne change pas la tectonique des plaques. Le magnétisme, le champ magnétique. J'ai envie de répondre non. Ma première réflexion comme ça, c'est non. Il y a des gens qui pensent que les séismes déclenchent ou sont précédés par des phénomènes magnétiques. Donc les séismes ont un impact sur le champ magnétique. Aurait. C'est recherché, on cherche des signaux magnétiques en relation avec les séismes, on essaie de voir s'il y en a, on essaie de voir si c'est systématique, dès que quelqu'un dit « Ah, moi j'ai vu un truc », on vérifie, on essaie un autre tremblement de terre, on regarde si ça se reproduit, etc. Dans ce sens-là, et l'idée c'est, s'il y a des perturbations du champ magnétique avant, pendant et après un séisme, peut-être que ça peut nous aider, surtout celle qui aurait lieu avant, à entre guillemets prédire des séismes. On voit que le champ magnétique s'affole dans une région, on se dit « tiens, il se passe quelque chose ». Alors c'est une possibilité, elle est assez débattue, elle est pas mal controversée, il y a des gens qui crient très fort que ça marche. L'immense majorité des chercheurs pensent que ça ne marche pas, que c'est des phénomènes qu'on peut mesurer, il y a beaucoup de bruit magnétique, c'est très compliqué, on n'a jamais rien vu de très très probant associé au tremblement de terre. Après, dans l'autre sens, est-ce que le champ magnétique, les changements du champ magnétique ont un effet sur les tremblements de terre? Alors là, je crois que c'est carrément non, non, non. Je n'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit. Alors après, si on élargit ta question, le chercheur doit toujours faire très attention à ne pas être catégorique, à mon avis. C'est très facile de croire qu'on a la vérité et que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est vrai. Et c'est comme ça, et c'est tout. Faire très attention à ça parce que la recherche consiste à être confronté régulièrement à des choses qu'on n'avait pas vues, pas compris, pas comme ça, et à découvrir des nouveaux fonctionnements, des nouveaux mécanismes qu'on n'avait pas anticipés. Et par exemple, dans les domaines des géosciences, il y a quand même quelque chose qui est très connu, hein, on parlait de tectonique des plaques. Quand Alfred Wegener a dit qu'à son avis, il y avait une tectonique des plaques parce que il voyait c'est que des plaques, comme l'Amérique du Sud et l'Afrique par exemple, avaient des zones de concordance entre elles. Il y avait les mêmes fossiles des deux côtés, il y avait les mêmes faunes, les mêmes flores, même la côte s'imbriquait assez bien. Et il y avait la même géologie de part et d'autre. Et donc si on faut imaginer que ça avait été collé puis que ça s'était écarté, beaucoup de physiciens de son époque lui ont dit c'est impossible. Un calcul très simple d'énergie, une balance de bilan d'énergie montre que ce n'est pas possible, l'énergie qu'il faut pour faire bouger les plaques n'est pas disponible à l'intérieur de la Terre. Il disait ça avant qu'on découvre l'énergie atomique. Et quand on a découvert la radioactivité, la désintégration des roches et l'immense réservoir d'énergie qu'il y avait dans les roches radioactives, on s'est dit, ben, là on a un moteur et on a une source d'énergie pour faire ça. Et les sciences, c'est comme ça. La vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain. Donc quand on affirme quelque chose, il faut faire attention. C'est en fonction de ce qu'on croit savoir aujourd'hui, on pense que ça marche comme ça.
À propos de radioactivité, justement, est-ce que ça, comment ça influence la sismologie, enfin, par exemple, en Bretagne, il y a beaucoup de séismes, c'est connu qu'il y a des gisements magnétiques radioactifs.
Alors là, il y a plusieurs échelles. Là, la première chose, c'est que s'il n'y avait pas de radioactivité, il n'y aurait pas de tremblement de terre. Mais c'est pour une raison très détournée. C'est parce que les roches qui sont dans le manteau terrestre sont radioactives, pas beaucoup, mais un petit peu, et puis qu'il y en a beaucoup, que ça fournit de la chaleur. Et cette chaleur, elle rend... Peut-être que vous en avez déjà vu des cailloux. La matière qui est à l'intérieur de la Terre, elle, quand tu regardes un caillou, ça a l'air dur. Il n'empêche que quand c'est chauffé à des milliers de degrés et que c'est soumis à des forces qui s'exercent lentement et patiemment sur eux, les mains, ils se déforment. Le résultat, c'est que, à cause de cette production de chaleur à l'intérieur de la Terre, le manteau terrestre se déforme. Et parce que le manteau terrestre se déforme, les plaques qui sont posées dessus bougent. S'il n'y avait pas de production de chaleur, il n'y aurait pas de déformation. S'il n'y avait pas de déformation, il n'y aurait pas de plaque tectonique, il n'y aurait pas de mouvement, il n'y aurait pas de faille, il n'y aurait pas de tremblement de terre. Donc c'est la radioactivité naturelle des roches qui, petit à petit, induit toute cette machine qui fait fonctionner la planète Terre et qui fait ce tremblement de terre. D'autres planètes, comme la planète Mars, par exemple, qui sont un petit peu plus jeunes, un petit peu plus petites, pardon, que la Terre, se sont refroidies beaucoup plus vite. Aujourd'hui, elles sont froides. Et c'est fini, elles sont solidifiées, ça ne bouge plus, il n'y a pas de tremblement de terre. D'autres planètes comme Vénus sont trop chaudes, mais alors là, ça devient plus compliqué. La Terre, elle est juste comme il faut. Alors après, à l'échelle plus précise dont tu parles, est-ce que les dégagements de gaz radioactifs comme le xénon dans les granites sont liés à la sismicité de la montagne? Je pense que non. Je pense que c'est juste ça. Il y a des granites en Bretagne qui sont très vieux, qui viennent de tas de phénomènes qui sont produits il y a très longtemps, et qui se trouvent contenir des gaz qui sont un peu radioactifs. Donc voilà, il y a un peu de radioactivité. La sismicité de la montagne, c'est un peu mystérieux. Pourquoi il y a des tremblements de terre en Bretagne? Ça, c'est un truc qui me fascine toujours un peu. C'est pas très facile de comprendre pourquoi il y en a. Mais je crois pas que ce soit lié à la présence du xénon dans le. Dans les planètes.
Au niveau aussi des oscillations, au niveau des marées terrestres, est-ce que c'est la question des impacts aussi? Par exemple, pour le Chicxulub au Mexique, d'ailleurs qui est censé avoir fait disparaître les dinosaures, ça m'intéresse un peu. Donc, je voulais savoir si le modèle, les modèles, tiennent en compte ces phénomènes, essayent de les intégrer pour les prédictions.
Ouais. Alors, tu parles de marée terrestre. Ce que la marée terrestre, c'est le fait que comme la Lune tourne autour de la Terre, quand elle passe, elle augmente l'attraction gravitationnelle vers la Lune, elle la diminue, ce qui attire vers la Terre. Et évidemment, ça soulève l'eau assez facilement, parce qu'elle est liquide. Et puis, ça déforme un peu la Terre aussi. Donc il y a la marée océanique qui peut atteindre 12 mètres sur les côtes de France, du Canada. Et puis il y a les marées terrestres qui sont quelques centimètres, quelques dizaines de centimètres au maximum de la Terre solide qui monte et qui descend quand la Lune passe pour les mêmes raisons. C'est des petits mouvements, c'est quelques centimètres de marée terrestre. Il y a des gens qui ont pensé, et on a regardé ça d'assez près, pour voir si quand les failles qui ont accumulé de la déformation et qui sont prêtes à rompre. C'est comme des ressorts très comprimés à cause de la tectonique des plaques qui frottent et qui compriment les endroits. Et on s'est demandé, tiens, pourquoi ça casse aujourd'hui et pas hier ou demain? Ou pourquoi ça casse cette semaine et pas dans 15 jours? Et une des idées, c'était que ben justement, les marées terrestres, l'attraction lunaire, pouvaient, en comprimant et en décomprimant comme ça, avec un cycle de 28 jours, et puis après un cycle annuel avec les grandes marées, les petites marées, peut-être qu'il y aurait plus de tremblements de terre au moment des grandes marées, par exemple. Et c'est des bonnes idées, mais je ne crois pas que ça marche. On a plein de raisons compliquées d'imaginer que, en fait, non. On ne voit pas vraiment plus de séismes quand la Lune est pleine que quand la Lune est nouvelle. On ne voit pas plus de séismes aux grandes équinoxes qu'à d'autres moments de l'année. Et on ne voit aucune relation entre les cycles lunaires et les grandes extinctions. Ça, c'était la deuxième partie de ta question. Les grandes extinctions d'espèces vivantes à la surface de la Terre, c'est des trucs qui se produisent sûrement assez souvent. Celle qui est très connue, celle des dinosaures, il y a 60 millions d'années, n'est certainement pas reliée aux marées qui se produisent tous les 28 jours. Alors, il y a différentes théories là-dessus, les deux plus connues. C'est la chute d'un météorite à la surface de la planète, dont on parlait de météorite et les conséquences que ça peut avoir. Une énorme météorite qui tombe sur la planète, ça crée des tremblements de terre par le choc, mais surtout ça va propulser dans l'atmosphère des aérosols, de la poussière, et en quantité absolument colossale, au point que l'atmosphère va se retrouver sombre, tellement remplie de poussière qu'il fait nuit pendant la journée, et que tous les animaux qui ont besoin de lumière, ils ont un peu de mal à vivre dans cet environnement-là. Les plantes qui ont besoin de lumière pour faire la photosynthèse vont cesser de fonctionner, et les herbivores qui mangent des plantes vont d'un seul coup voir leur stock d'aliments disparaître. Ça devient dur pour eux de survivre dans cet environnement-là. Et c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est des éruptions volcaniques massives, qui ont d'ailleurs à peu près le même effet, c'est le même mécanisme, c'est le fait d'envoyer... C'est pas tellement la lave qui va tuer les animaux, c'est les panaches de cendres qu'on envoie dans l'atmosphère et qui vont recouvrir toute l'atmosphère, qui vont l'obscurcir, qui vont avoir le même effet. Peut-être que les deux choses se sont produites en même temps, peut-être que aussi les extinctions ne sont pas vraiment des extinctions. Il y a aussi des tas de débats là-dessus, savoir est-ce que les dinosaures disparaissent en 10 ans ou en 10 millions d'années, et que c'est juste parce qu'il nous manque des fossiles pendant quelques millions d'années qu'on a l'impression qu'ils sont tous morts le même jour à la même heure, mais en fait, ils ont mis plusieurs millions d'années à mourir, et à ce moment-là, ils ne sont pas vraiment éteints d'un coup, quoi. Et ça, ben, c'est de la recherche. Ça repose sur le fait qu'il y a des paléontologues qui cherchent des fossiles en Amérique du Sud en ce moment, par exemple. Et depuis quelques années, on a trouvé des nouveaux sites de fossiles en Amérique du Sud, et on trouve pas mal de fossiles de dinosaures plus jeunes que 60 millions d'années. D'où ma question, est-ce qu'ils ont vraiment été éteints à 60 millions d'années? En fait, c'est même pas si sûr que ça. Donc la recherche, c'est ça, c'est, ça avance et ça change. La vérité, c'est jamais que la théorie du moment. En quelques secondes, quelques minutes pour les plus grands tremblements de terre. Alors, d'une part, c'est explosif. Hein, donc le dispositif, il faudrait qu'il résiste à une libération d'énergie phénoménale pendant un temps très court. Et d'autre part, ça se produit de manière épisodique. À un endroit donné, il ne se passe rien pendant 200 ans, et pouf, en une minute, beaucoup d'énergie est libérée. Alors ton mécanisme, il serait probablement très difficile à construire. Après, il faudrait l'entretenir pendant des centaines d'années pendant lesquelles il ne se passe rien. Et évidemment, le jour du tremblement de terre ne marchera pas. Mais ensuite, l'énergie libérée par les petits séismes, qui se produisent plus souvent en continu, le bruit sismique, alors c'est très peu d'énergie, en fait. Ça fait vibrer le sol, mais vous ne le sentez pas. Les séismes de magnitude, dont parlent les pierres qui se produisent en Grèce, les instruments les enregistrent très bien, mais nous, on ne les sent pas en France. Donc le mécanisme qui capturerait leur énergie, bon, tu vois par exemple, un mécanisme de capture d'énergie de ce type-là, c'est la houle. On fabrique des bouées dans lesquelles il y a des ressorts avec des masses qui font que quand la bouée monte et descend avec la houle, ou oscille avec la houle, la masse qui se déplace, elle a un engrenage avec un cliquet, et dans un sens, elle comprime le ressort, et dans l'autre sens, elle revient à sa position. Donc à chaque fois que la bouée bouge, on comprime un ressort un peu plus. Et puis après, ce ressort, il peut faire tourner une hélice, une turbine, ce qu'on veut, et on fabrique de l'électricité avec ça. La houle qui fait ça, elle fait 1 ou 2 mètres d'amplitude, et elle fait ça avec une longueur d'onde de quelques dizaines de mètres, à une vitesse de quelques mètres par seconde. Donc toutes les 10 secondes, le ressort bouge, et se fait comprimer par la masse, etc. Et ça dure 24 heures sur 24, 365 jours par an. Pour avoir une onde qui fasse quelques mètres de haut, hein, est susceptible de faire bouger ses ressorts comme ça, il faut taper dans les séismes de magnitude supérieure à 8, 8,5, 9. Et les séismes de magnitude 9, il s'en produit un tous les 10 ans à la surface de la Terre. Donc bon, c'est pas super comme source.
C'était par rapport au matériel que vous avez montré. En cours, on a pu laisser une enclume de diamant. Et vous avez dit seulement que vous pouvez utiliser jusqu'à 10 km, parce qu'elle utilise justement ce que vous avez dit. Vous avez pour utiliser une moto, pour savoir vraiment comment fonctionne votre pas de matériel, parce que c'est un assemblage qui s'est fait en France.
Oui, alors il y a des appareils qui permettent de on n'a pas ça pour l'instant au labo. On a des presses qui vont à des pressions beaucoup plus petites. Mais une des spécialités qu'on essaye de faire dans nos presses, c'est de fabriquer des séismes microscopiques dans les échantillons. Donc, pour l'instant, les collègues qui font ça se sont intéressés à ces profondeurs-là parce qu'ils étaient limités par les appareils, ils voudraient aller plus profond dans le futur. Et donc, les échantillons qu'on met dans la presse, en fait, ils sont bardés de capteurs, en particulier de tout petits capteurs de vibration, donc des sismomètres miniaturisés, pour regarder le déclenchement et la propagation de la sismicité lors de la fracturation des échantillons.
J'avais aussi une question sur un instrument de mesure. Vous avez parlé d'un inclinomètre tout à l'heure. Et je me demandais comment ça pouvait marcher, comment est-ce qu'il pouvait avoir une précision si importante, et qu'est-ce qu'on mesure vraiment, l'inclinaison par rapport à quoi, et enfin voilà.
Alors il y a plein de technologies d'inclinomètres. Ceux qui sont pas mal à la mode aujourd'hui, c'est pas ce que je vous ai montré, c'est des inclinomètres, parmi ceux qui sont à la mode, il y a des inclinomètres à eau, avec du liquide, qui font quelques mètres de long. Et donc, aux deux extrémités, on met un capteur capacitif qui regarde la hauteur de l'eau. Si vous avez une petite inclinaison, vous avez un changement aux deux têtes de votre inclinomètre. Ce que je vous ai montré, c'est un inclinomètre qui, quelque part, je trouve beaucoup plus subtil, quoi, sur le plan de la conceptuel, et très simple, en fait. Parce que des inclinomètres comme ça, vous en voyez tous les jours. En fait, vous en verrez tous les jours désormais. C'est le principe de la porte dont l'axe ne serait pas rigoureusement vertical. Vous imaginez une porte, cette porte, voilà. Et puis elle est construite un peu de travers avec son axe, mais un tout petit peu oblique, 0,5 degré. Alors, vous la fermez, mais elle se rouvre. Elle n'est pas fermée. Mais elle se rouvre de beaucoup plus que 0,5 degré. Tout simplement parce que vous avez construit un dispositif qui amplifie un mouvement. Vous construisez une porte avec l'axe décalé de 0,5 degré, et voilà que vous la lâchez, elle tourne toujours de 5-10 degrés. Alors dans le clinomètre que je vous ai montré, c'est ça, ça marche comme ça en fait. Sauf que là, on est quasi vertical. Donc on a en fait un système avec deux petits fils de silice. Je ne remontre pas la diapositive parce qu'on ne verrait pas. Mais il y a deux petits fils de silice qui sont suspendus de façon presque verticale, et au centre, il y a un petit miroir, et c'est presque vertical, mais pas vertical. Donc le petit miroir, il va osciller, et puis il va regarder dans une certaine direction, et si j'incline un tout petit peu, il va tourner de beaucoup plus que mon inclinaison. Donc j'ai comme ça un appareil qui amplifie beaucoup mécaniquement. Donc ça, c'est le principe de base de cet inclinomètre là et de toute une gamme d'inclinomètres, en fait.
Alors après, tu posais la question, qu'est-ce qu'on mesure avec ça? On mesure tout. C'est absolument fascinant. Dès que le sol bouge, pour n'importe quelle raison, et il y a plein de raisons, et ben son mouvement en général a une composante qui est une inclinaison du sol, qui change. Donc dès qu'il se passe quelque chose, l'inclinaison change et l'appareil le mesure. Alors quelque chose, toutes sortes de choses, un tremblement de terre, quand la faille casse, elle a un petit mouvement vertical, donc le compartiment qui est d'un côté de la faille s'incline. L'inclinomètre posé n'importe où sur ce compartiment mesure cette inclinaison, et on peut savoir où, de combien ça s'est incliné, et en faisant des calculs, d'essayer de voir qu'est-ce que ça nous apprend sur le tremblement de terre. Quand il y a un tsunami, on en parlait tout à l'heure, ce sont des masses d'eau qui se déplacent. Quand la vague du tsunami arrive sur le continent, ça pèse sur le continent bascule, un kilomètre bouge, et on voit exactement quand et de combien. Et avec ça, on peut savoir, un tsunami, c'est compliqué, c'est des vagues qui viennent, qui repartent, qui reviennent, qui repartent, qui reviennent. Grâce à un inclinomètre, on sait exactement quelle quantité d'eau on a où, à quel moment. On peut mesurer aussi la pluviométrie. Quand il pleut, l'eau s'écoule, elle est collectée par le réseau de drainage en surface. Ensuite, elle rentre dans le sol pour une partie qui va dans les rivières et qui est évacuée vers les fleuves. Une partie qui rentre dans le sol, dans des nappes phréatiques qui se remplissent, donc qui pèsent plus lourd. Donc le continent bascule, on le mesure avec l'inclinomètre. Et on peut mesurer deux choses. On peut mesurer la quantité d'eau, ce qui est la charge totale, mais on peut aussi mesurer à quel moment on bascule de combien. Et ça, ça nous donne des tas d'informations intéressantes sur la porosité du système qui capture l'eau. Parce que l'eau, elle tombe en surface, et puis après, elle voyage à une certaine vitesse qui dépend de la plomberie du système. Et si l'eau, elle arrive beaucoup plus tard ou beaucoup plus vite, ça dépend de cette plomberie, et l'inclinaison va évoluer avec le temps en fonction de la vitesse à laquelle la masse d'eau se déplace. On mesure les changements atmosphériques pour les mêmes raisons. Quand un anticyclone s'installe, c'est de l'air plus léger qu'une dépression, ou le contraire, pardon, je viens de dire une bêtise, c'est plus lourd qu'une dépression, et les masses d'air changeant, l'inclinaison du sol change. Donc on peut mesurer le poids de la colonne d'air posée sur le continent grâce à un inclinomètre. On peut faire de la météorologie avec ça. Je peux continuer à l'infini. Ce qui est assez passionnant, c'est de se rendre compte qu'en fait, beaucoup de choses qui se passent à la surface de la Terre produisent des déformations de cette surface. Et que dès qu'on est capable de mesurer ces déformations, que ce soit des angles, des distances, etc., on a accès à une information qui est absolument précieuse et qui nous apprend beaucoup de choses sur ce qui se passe dessus, dedans. Par satellite. Vous connaissez tous le mot GPS, j'imagine. Vous faites de la randonnée, vous avez des GPS dans les voitures, dans les avions. Ben nous, on utilise ça aussi, simplement avec des techniques et des méthodes qui permettent d'obtenir des positions qui ne sont pas précises à quelques mètres près, mais à quelques millimètres près. Et donc, quand un point, on connaît sa coordonnée à quelques millimètres près, dès qu'il se passe quelque chose, sa coordonnée change, parce que la croûte s'est déformée, etc. Mais avec ce même GPS, on mesure de combien ça a bougé à cet endroit-là. Si c'est 10 mètres, c'est 10 mètres. Si c'est 1 cm, c'est 1 cm. 5 mm, c'est 1 mm. Et donc avec la même méthode, on peut analyser les très grandes déformations dues au très grand séisme, aussi bien que les petites déformations dues au petit séisme. Les mesures par satellite, l'interférogramme radar qu'a montré Pierre, qui montrait la carte de déformation du Japon, permettent, suivant la longueur d'onde du radar qu'on utilise, de regarder des plus ou moins grandes déformations. Mais en gros, on étudie tous les séismes depuis la magnitude 5 jusqu'à la magnitude 9 avec ces méthodes-là. Après, pour les beaucoup plus petits, qui produisent peu de déformations, des déformations inférieures au millimètre à la surface, là, on utilise autre chose. On a du mal, si on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas le faire. Mais oui, sinon, les méthodes que montrait Pierre marchent assez bien sur toute une gamme de tremblements de serre.
Vous avez parlé un peu des exoplanètes, et normalement, je ne sais pas si les phénomènes sismologiques sont une condition essentielle pour l'éclosion de la vie. Et si c'est le cas, quelles sont les méthodes à employer pour essayer de les détecter, surtout sur les distances de l'ordre de l'année-lumière?
Les exoplanètes, elles sont très loin, et donc on les voit par des méthodes indirectes en fait, aujourd'hui. Par exemple, on les détecte parce que parce qu'on voit des anomalies sur l'orbite de satellites de tel ou tel soleil. Et parce qu'on voit des anomalies de lumière provenance de telle ou telle étoile. Donc, je crois qu'on ne peut pas répondre directement à votre question comme ça. Cela dit, dans votre question, il y a un élément qui me rappelle un séminaire qu'on a eu il y a 2 ans dans notre laboratoire. C'est un collègue planétologue qui nous parlait de l'importance de la tectonique des plaques pour l'existence de la vie sur les planètes, justement. Et lui, il disait, bon, l'habitabilité de la Terre est liée, au moins en partie, précisément, à la tectonique des plaques, parce que, grâce à la tectonique des plaques, on va faire du recyclage de carbone, d'eau, et donc on a un cycle de matière détritique, sédimentaire, qui est recyclée au fond des océans, qui ressort. On a de l'eau qui remonte dans le volcanisme, par exemple dans les zones de subduction. Et donc, finalement, la recette de cuisine qui conduit à la vie, la tectonique des plaques, selon son collègue, la tectonique des plaques était un élément favorable à l'éclosion de la vie, par ses effets.
Avant le grand tremblement de terre, ça veut dire qu'il y a un bruit de petits séismes qui craquettent, qui sont petits, et qui précèdent le fait qu'un grand tremblement de terre va arriver. Alors, ce bruit est parfaitement détectable par des instruments. Les sismomètres mesurent ces tremblements de terre. Ce sont des chocs qui émettent des ondes, et ces ondes, c'est des ondes sonores, on les enregistre, on sent les vibrations. Donc, nous ne sommes pas très sensibles, nous ne les sentons pas. On peut imaginer que des animaux qui sont plus attentifs parce que leur survie dépend de leur attention à leur environnement vont être capables de détecter les petites vibrations que nous n'allons pas sentir parce qu'on a des grosses chaussures, parce qu'on pense à autre chose, etc. Peut-être qu'un petit rongeur qui vit dans une petite caverne à 2-3 mètres de profondeur, dans un environnement bien sombre et bien silencieux, les petites vibrations vont l'inquiéter. Et il va s'enfuir parce que c'est pas normal. Pour autant, il n'a pas de préséance de quoi que ce soit. Il sent des vibrations, ça lui fait peur et il s'en va. Mais s'il ne les sent pas, il meurt comme les autres. Et moi, ce que je vois, c'est que s'il n'y a pas de signaux enregistrés par les sismographes, les animaux meurent. Donc ils n'ont pas de préséance par un magnétisme ou un sixième sens ou quoi que ce soit. Autant que je sache. Tant qu'on ne m'a pas démontré le contraire, je crois que c'est comme ça que ça marche.
L'atome de Fechner aussi dit qu'au début, la Terre, tous les continents formaient notre peuple. Normalement. Et là, donc, on peut s'attendre aussi à ce que en un certain temps, il reforme le même peuple. Est-ce qu'on a une estimation de cette part de temps?
Vas-y.
Oui, ben, c'est. Enfin, je ne suis pas un expert de la tectonique des plaques sur des très longues périodes de temps, mais effectivement, il y a des périodes où finalement tous les continents sont rapprochés, il y a des périodes où ils s'échappent, ils tournent, et donc, si on calcule vers le futur l'évolution de nos continents, on voit que on va avoir à un moment donné un regroupement. Enfin, je n'ai pas regardé ça très précisément, mais il peut y avoir dans le futur des moments où on aura de nouveau un seul ou deux grands continents et non pas comme aujourd'hui finalement une mosaïque très de petits continents et blocs un peu partout. Donc ça c'est mais ça vous pouvez, je pense qu'on peut trouver parce que l'histoire est bien connue finalement de la tectonique des plaques, de ce qu'ont été les continents géants et où ils sont craquelés. Je pense que le futur doit être relativement bien connu jusqu'à peut-être 20-30 millions d'années vers le futur, peut-être plus.
Oui, justement, comme je te disais tout à l'heure, les vitesses des plaques ne changent pas, ou vraiment très lentement. Bah, finalement, en mesurant la vitesse à laquelle elles bougent aujourd'hui, prédire où elles seront dans 10, 20 ou 30 millions d'années, ce n'est pas très difficile. Donc il y a des simulations, effectivement, en surfant sur le web, vous pouvez les trouver, qui montrent où étaient les continents il y a 500 millions d'années, 100 millions d'années, 10 millions d'années, et où ils seront plus tard. Et on voit ce cycle parce que, évidemment, s'il y a une tendance à pousser les continents dans la même direction, ils se rassemblent. Mais une fois qu'ils sont rassemblés en un super continent, ça fait comme un couvercle de cocotte minute, avec le manteau en dessous qui est bien chaud, et qui n'arrive plus à se refroidir parce qu'il y a ce continent-là qui empêche la matière mantélique chaude d'arriver à la surface. Et cette matière, elle va inéluctablement trouver son chemin en cassant le supercontinent et en poussant les morceaux pour sortir. Donc on a toujours ce cycle qui revient sans arrêt, de moment où on a cassé le supercontinent, on a plein de morceaux qui s'écartent les uns des autres, puis évidemment, hein, ils se rejoignent de l'autre côté et ça recommence. Et il y a eu déjà un paquet de cycles en quelques milliards d'années.
Bien.
Je voulais dire simplement qu'il y avait 5 films qui s'appellent La valse des continents, qui décrit la tectonique des plaques, qui sera donné au CDI. Donc vous pourrez voir, c'est des films de 52 minutes qui sont faits par l'Institut de physique du Golfe Paris et qui sont très bien faits, puisqu'ils parlent aussi de l'évolution de la tectonique des plaques et de la valse des continents. Vous y avez accès, vous pouvez avec le CDI toute cette semaine.
Alors, si vous me permettez encore, je vais faire un commentaire. Si vous n'avez plus vraiment de questions, on est toujours là pour y répondre. Aux raisons pour lesquelles il sait bien faire des géosciences, Pierre en a cité 3, je vais en rajouter 2. La quatrième, c'est que c'est marrant. Moi, je trouve ça vraiment bien. Je pense qu'on travaille sur plein de trucs, on fait plein de choses, et on se pose des tas de questions qui sont quand même assez marrantes, et on le fait d'une manière marrante. On va sur le terrain, on fait des mesures, on réfléchit, etc. Et la deuxième chose qui est un peu liée à ça, c'est que c'est divers, justement. Si vous faites des maths, si vous faites de la physique, si vous faites de la chimie, vous verrez que ce sont des matières fondamentales qui, petit à petit, vous amènent à vous spécialiser vers des choses qu'on approfondit de plus en plus. Et ce sont des choses très compliquées, et donc faire de la recherche en maths, en physique ou en chimie, c'est se spécialiser de plus en plus dans un domaine qui est pointu, extrêmement difficile et pour lequel il vous faut beaucoup d'années pour acquérir une compétence qui permet de progresser dans cette direction-là. Et vous travaillez dans cette direction-là et puis vous êtes dans cette direction-là pour toute votre carrière. Dans les sciences de la Terre, c'est exactement le contraire. On a des géochimistes, des géophysiciens, des géobiologistes, des géomathématiciens. On a des gens qui utilisent toutes ces matières scientifiques pour regarder tous les problèmes qui nous sont posés de toutes les manières possibles. Vous voyez les questions sur les déformations, c'est de la mécanique de la poutre, qu'on appellera nous mécanique de la roche. Après, des problèmes de volcanologie, la chimie, de panache volcanique, qu'est-ce qui se passe dedans? Est-ce que ça fait de la vie? C'est de la bio. Au fond des océans, dans les dorsales, il y a des choses qui se passent avec l'eau. C'est une interaction avec la chimie de l'océan, la chimie de la Terre. C'est de la chimie, c'est de la bio. Quand on fait de l'informatique parce qu'on fait des calculs sur ordinateur, et il y a des gens parmi nous qui sont des fous de calculs numériques. Il y a des gens qui écrivent des équations très compliquées, purement théoriques, purement analytiques, et qui résolvent ces équations en dérivant et en intégrant sur un bout de papier. On a des gens qui utilisent les méthodes de physique nucléaire pour dater des roches, pour dater des choses, qui travaillent avec des accélérateurs dans des grands ensembles de physique. C'est extrêmement varié, et quelle que soit la matière que vous avez choisie, que vous aimiez la chimie, la biologie, les maths, la physique, vous pouvez faire des sciences de la Terre avec ça. Et donc le truc qui est sympa, c'est quand vous avez commencé à faire des sciences de la Terre parce que vous avez fait des maths qui vous ramènent à faire des sciences de la Terre, ou de la physique qui vous amène, après vous pouvez changer. Une fois que vous êtes dans le domaine des sciences de la Terre et que vous y êtes arrivé par la physique, ce qui est mon cas, vous pouvez découvrir que la géologie c'est passionnant, et petit à petit apprendre et faire de la géologie. Puis quand vous êtes fatigué de faire de la géologie, vous faites de la chimie. Puis quand vous êtes fatigué de faire de la chimie, vous faites de la bio. Et c'est à l'intérieur des sciences de la Terre, comme vous parlez, on parle toujours du même objet que la Terre, on fait feu de tout bois pour l'étudier, c'est vachement bien. Vous pouvez changer. Et c'est riche parce que vous discutez avec des collègues qui ont toutes ces compétences différentes. Et le dernier élément, c'est que c'est aussi très divers parce qu'on le fait. Vous avez vu toutes ces photos, on peut le faire, on a parmi nous, on a des gens qui ne sortent jamais du laboratoire et qui sont 24 heures sur 24 derrière leur ordinateur. On a des gens qui sont à côté de leur presse et qui font des expériences en blouse blanche, qui ont des pinces, des clés à molette, qui vissent leurs trucs, qui bricolent, ils sont des bricoleurs de génie, et c'est ça qu'ils aiment faire, et pour faire marcher leur instrument. On en a d'autres qui portent des valises au bout du monde, en Antarctique, en Indonésie, au Chili, partout, pour faire des mesures, et qui organisent des expéditions. Donc c'est aussi divers dans le type d'activité, si vous êtes un rat laboratoire, pas de problème, on peut vous fournir du boulot. Si vous êtes un aventurier, pas de problème, on peut vous fournir du boulot. Si vous êtes un passionné de l'équation, pas de problème, il y a du boulot pour vous. Quelles que soient vos aptitudes, vos goûts et vos appétences en matière de thématique scientifique ou en matière de qualité ou de ce que vous aimez faire avec vos mains, les sciences de la Terre permettent de faire tout ça, à mon avis, beaucoup plus que n'importe quelle autre discipline. Deux bonnes raisons d'en faire.
Une fois, il y a un passionné d'équations qui a fait une émission à Djibouti avec une équipe de géodésie. Et puis, il était avec lui, il y avait un passionné d'instrumentation. Et puis, ils étaient sur une plaine de sable de 40 km de long. Et il avait plu quelques semaines avant. Et à un moment, le théoricien il dit « Regarde, il y a un mirage. » Et l'autre, il dit « Mais non, c'est l'eau de la pluie. » Et le théoricien dit « Si, ça, c'est un mirage. Je suis sûr, les équations le montrent. » Donc ils ont faussé. Et c'était l'eau de la pluie.
Mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien, c'est qu'on pouvait débattre de la théorie et ensuite aller voir.
Bon, écoutez, je crois qu'on va peut-être s'arrêter là. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir posé toutes ces questions. Alors vous avez une expo mobile là qui a été fournie, il y a deux parties, il y a des posters qui proviennent de notre labo, mais il y a aussi tout un tas de documents qui proviennent de nos collègues et voisins de l'Institut de physique du globe de Paris, qui est le plus gros institut parisien de sciences de la Terre avec beaucoup de labos. Et qui ont cette expo mobile et qui je crois est très bien. Enfin, je sais qu'elle est très bien. Donc, n'hésitez pas à regarder les posters. Peut-être que les posters sont un peu compliqués. On a pris ce qu'on avait dans les couloirs du labo, donc on n'a pas. C'est pas des posters de vraiment de diffusion de l'information scientifique en grand public. Mais je pense qu'il y a des choses que vous pouvez comprendre dans les posters. Et puis l'info mobile de l'IPG, elle est. Et vraiment, montre les multiples facettes du métier, je crois, c'est pas mal. Et puis j'ai apporté aussi quelques plaquettes de l'École normale supérieure, mais j'ai vu qu'il y en avait déjà, mais je vais les laisser quelque part, donc si ça vous intéresse. J'ai aussi quelques documents qui décrivent les autres départements, ce qui se fait, c'est de la pub. Voilà, merci.